Bonsoir. Quand l'affaire Benalla, une fois de plus, affole le débat politique, c'est à la une des informés de France Info ce soir, Christophe Castaner, qui met en garde les sénateurs qui seraient tentés de vouloir destituer, et oui, le président de la République. Le torchon brûle entre l'Élysée et le palais du Luxembourg. Marine Le Pen, elle, retrouve le sourire. Son Rassemblement National est fauché, mais il cartonne dans les intentions de vote aux européennes. Nous évoquerons ce soir la redevance TV qui pourrait changer de visage. Françoise Nyssen propose de l'étendre à tous les écrans, ça va grincer. Le plan vélo présenté par Édouard Philippe, le gouvernement a décidé de changer de braquet. Enfin, l'Élysée qui se met à l'heure américaine ou royal peut-être, en lançant des produits dérivés pour les journées du patrimoine. Choisissez votre mug ou vos macarons, on en parle avec nos invités. Bonsoir à vous et bienvenue Amdam Mostafavi, partenaire des informés, rédactrice en chef chez Courrier International. Avec nous également, bonsoir Hervé Nathan.
Bonsoir.
Notre autre partenaire, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Invité ce soir, Jérémy Pelletier. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir.
Directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Et j'ai le plaisir d'accueillir également notre communicant Emmanuel Bachellery. Bonsoir.
Bonsoir Jean-François.
Vous êtes directeur général de Brest Ultime Sailing. Je me permets de préciser, c'est une société qui organisera entre autres le premier tour du monde en solitaire en multicoque à la fin de l'année prochaine. Je l'ai bien dit, je crois.
Exactement.
Allez, nous sommes ensemble aux informés jusqu'à 21h à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Cela s'appelle une mise en garde. Il y a eu d'abord le coup de fil mardi entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher à propos de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, le chef de l'État qui aurait invité le président du Sénat, eh bien, à garantir les équilibres institutionnels. Ça, c'est du langage diplo. Et ce matin, la déclaration de Christophe Castaner, le délégué général de La République En Marche, qui donnait sa conférence de presse de rentrée, s'est mis dans les pas présidentiels.
Certaines personnes, et ce n'est pas le cas du président du Sénat, qui confondent la mission du Parlement, qui est de contrôler le gouvernement, avec une mission que le Parlement se déciderait ou s'auto-attribuerait, qui serait de contrôler l'exécutif et la présidence de la République. L'essence même de la Ve République, c'est celle de la séparation des pouvoirs. Une commission d'enquête qui aurait des ambitions politiques pour faire de la politique et penser qu'elle peut jouer de ses fonctions de contrôle du gouvernement pour faire tomber un président de la République, commettrait une faute constitutionnelle. C'est cela que je vous dis. Et donc, ne cherchez pas à comprendre autre chose.
Sapristi, alors on fait un peu de décodage avec vous, les informés. Christophe Castaner, sans le citer, Philippe Bas, donc, et la commission d'enquête sénatoriale, voudrait faire tomber le président de la République. Hervé Nathan, vous pensez que c'est le cas ?
Alors, quand on connaît Philippe Bas, qui est quand même un sénateur calme, ancien secrétaire général de l'Élysée, et elle est juriste chevronnée, aller lui faire la leçon sur une leçon constitutionnelle, c'est très osé de la part de monsieur Castaner. C'est une limite mal élevée, mais faut quand même dire les choses. Il se trouve que l'exécutif, c'est-à-dire surtout la présidence, est à hâte de voir clore l'affaire Benalla et que il y a un problème, c'est que la commission d'enquête du Sénat, qui est composée de sénateurs chevronnés, en plus, c'est pas l'Assemblée nationale là, c'est pas le spectacle. Quand on regarde les images de la commission d'enquête du Sénat,
ce sont des pros,
c'est d'anciens ministres, c'est quasiment tous des juristes, et beaucoup ont assumé des hautes fonctions dans la République. Il y a Jean-Pierre Sueur, etc.
Ouais. Bon,
des ministres, maires, enfin tous les gens chevronnés, et ils sont là, ils exercent ce qui est le rôle d'un parlement dans toutes les démocraties, c'est de contrôler.
Mmh.
Et ça énerve beaucoup l'exécutif. Le président de la République lui-même a appelé Gérard Larcher. Enfin, on sent que là, pour le coup, il y a beaucoup d'énervement, voire un peu de peur.
Oui, vous direz de la peur, vous.
Oui,
hein.
Oui. Oui, parce que l'affaire Benalla pourrit tout. D'ailleurs, il n'y a plus aucune annonce qui passe tant qu'il y a l'affaire Benalla. Voilà, pour résumer. Et donc, il faut faire cesser cette affaire Benalla. Voilà.
Amdam Mostafavi, on imaginerait une espèce d'impeachment à la française survenue, tout ça pour une histoire de chargé de mission qui dérape dans la rue un jour de 1er mai.
Mais c'est quand même assez étrange parce que, en fait, Christophe Castaner commence à parler de quelque chose qui n'avait pas tellement été évoqué, c'est-à-dire, il parle de la destitution. Je veux dire, ça me semble être le béaba de la communication, de ne pas parler de ce qu'on cherche à éviter, absolument. Donc là, il le met un peu dans toutes les bouches, il le met un petit peu partout. Et évidemment, on n'est pas comme aux États-Unis. Trump, avec toutes les affaires qu'il a sur le dos, entre le Russiagate, entre ses affaires avec les femmes qu'il a payées, etc.
Du très lourd. Hein.
Du très lourd. Mmh. On parle à peine d'impeachment aux États-Unis, c'est-à-dire on en parle, mais de manière assez relativement modérée. Et là, il met ça sur le tapis, alors que bon, on n'est pas quand même dans les mêmes proportions. Donc il crée un peu la crise là où elle n'existait pas.
Alors Jean-Luc Mélenchon, dans un tweet aujourd'hui, dit le bras de fer Macron-Castaner-Benalla avec le Sénat est une escalade sans précédent en exportant sa crise d'autorité. L'exécutif, je le lis, l'amplifie et déstabilise les institutions, gare aux chutes imprévues. Emmanuel Bachelry, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi cet empressement des responsables de la majorité à essayer de bloquer cette affaire qui court?
J'en sais rien. À première vue, c'est vrai que c'est la température monte, parce que quand on regarde ce que Castaner a dit ce matin, ça fait suite à Griveaux, qui faisait suite à Belloubet. Enfin, c'est une succession. C'est pas du tout un hasard. Après, en strat de communication, il y a un item qui marche bien. C'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, sauf que là, c'est sur ce que Christophe Castaner a dit ce matin, il y a une erreur. On destitue pas un président de la République. Ça répond à un article constitutionnel qui est l'article 68 et qui dit que le président peut être destitué en cas de manquement grave à ses fonctions. On n'est absolument pas dans ce cas-là. Donc, le terme de destitution qui est lâché, il est mortel, parce que on va parler de quelque chose qui juridiquement ne tient pas à la route. Et qui va alimenter évidemment les médias eux-mêmes, mais les réseaux sociaux. Tout le monde va s'en emparer, tout le monde va raconter n'importe quoi. Et donc ça fait monter artificiellement une température, ce qui n'était pas forcément le but recherché.
Jérémy Pelletier, cette climatologie, pardon pour ces néologismes autour de l'affaire Benalla, est-ce que les Français y sont sensibles selon vous?
Les Français, en tout cas, étaient sensibles au moment de l'affaire. Il faut rappeler les enquêtes. Vous aviez 6 Français sur 10 qui considéraient qu'il s'agissait effectivement d'une affaire d'État. Quand même un certain nombre de responsables politiques vous disaient que ce n'était pas le cas. Vous aviez 7 Français sur 10 qui pensaient effectivement que c'était une affaire grave. Et d'ailleurs, ça a eu un impact fort, évidemment, dans la popularité d'Emmanuel Macron et dans l'image d'Emmanuel Macron. En grande partie, la baisse dans les enquêtes d'opinion après l'été est en partie due à cela. Il a perdu entre 3 et 4 points de bonnes intentions à la sortie de l'été. Donc, évidemment, l'affaire Benalla était importante pour les Français. Après, sur ce que je partage totalement, ce qu'a dit Emmanuel Bachelry sur le mot lâché de destitution. Effectivement, il y a un article 68 dans la Constitution qui permet justement à l'Assemblée et au Sénat de se constituer en haute cour en cas de manquement grave. Donc, effectivement, il ne s'agit absolument pas de cela. Oui. Mais effectivement, je pense que cette affaire rend nerveuse, alors que pourtant, Christophe Castaner le dit dans son intervention, l'essence même de la Ve République, c'est la séparation des pouvoirs. Il le dit, et c'est justement pour ça que je crois que le Sénat joue son rôle de contrôle dans cette affaire.
Allez, 20h11, on poursuit là-dessus dans un instant. Mais tout d'abord, l'info avec vous sur France Info, Claire Flochel.
Le verdict est tombé aux assises de Paris 5 ans après la mort de Clément Méric. Esteban Morillo, qui a reconnu être l'auteur des coups portés aux jeunes militants antifascistes, est condamné à 11 ans de réclusion criminelle. Samuel Dufour, porteur d'un poing américain ou de bagues, écope pour sa part de 7 ans de prison. Enfin, le troisième skinhead, Alexandre Hérault, arrivé plus tard dans la bagarre, est acquitté par les jurés. La ministre de la Culture veut réformer la redevance télé. Françoise Nyssen annonce qu'elle veut déconnecter la contribution à l'audiovisuel public de la détention d'un téléviseur. En clair, que la redevance soit payée par tous, avec ou sans télévision à la maison. Il s'agit, selon la ministre, de moderniser et d'adapter la redevance aux nouveaux usages numériques. Des opérations de sauvetage aux États-Unis en Caroline du Nord pour porter secours aux centaines d'Américains coincés chez eux à cause de la montée des eaux provoquée par le passage de l'ouragan Florence. Il s'abat depuis quelques heures déjà sur la côte est. La tempête ravage notre état, a déploré tout à l'heure le gouverneur de la Caroline du Nord. Et puis aux Philippines, on redoute l'arrivée d'un typhon très destructeur. Il doit frapper plusieurs îles ce week-end. Des milliers de personnes ont fui leur logement dans les zones côtières du Nord. L'archipel est régulièrement touché par les désastres naturels, mais ce typhon est le plus violent attendu aux Philippines depuis le début de l'année.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-François Aquilini.
Alors Alexandre Benalla, qui un temps n'avait pas envie de s'y rendre au Sénat, c'est mercredi prochain, finit par nous dire qu'il y allait. Et puis ce soir, son avocat, Maître Liénard, c'est chez nos amis de BFM TV, explique que peut-être lui-même étudie des recours afin que son client n'aille pas au Sénat. On peut-être finira par savoir ce qui va se passer. En tous les cas, Emmanuel Macron, en appelant Gérard Larcher, a-t-il pris le risque d'alimenter l'affaire? Écoutez ce qu'en a dit le député socialiste des Landes, Boris Vallaud, à nos confrères de LCP.
C'est extrêmement choquant que le président de la République appelle le président du Sénat pour, j'imagine, lui dire son mécontentement. C'est en effet une intrusion de l'exécutif dans les prérogatives du législatif et dans la fonction de contrôle du Parlement. Il aurait dû s'abstenir. Voilà, mais ça dit aussi quelque chose du rapport que l'exécutif a au Parlement.
Hervé Nathan, vous y voyez vraiment une sorte d'intrusion de l'exécutif dans le législatif ?
Bah, c'est pas exactement le législatif, là, c'est le pouvoir de contrôle du Parlement, d'une certaine manière. Il y a la lettre et puis il y a les principes. La lettre, on peut regarder et dire effectivement dans la Constitution, le Parlement peut contrôler le gouvernement et pas l'exécutif, et donc on pourrait pas aller voir à l'Élysée. Mais nous sommes en 2018. Il faut quand même que les gens qui prononcent ces genres d'énormité comme Castaner et d'autres et Madame Belloubet se rendent compte de ce que ça signifie. Ça signifierait qu'il y a un endroit en France où personne ne peut aller voir, entièrement hors de contrôle. On faisait ça du temps du général de Gaulle. C'était peut-être accepté et pas tout à fait accepté quand même, mais plus maintenant.
Hervé Nathan, vous avez dit tout à l'heure peur.
Vous pensez à quoi? On a l'impression qu'il y a une sorte de panique qui gagne dans l'équipe gouvernementale. Effectivement, Madame Belloubet, le garde des Sceaux, le président de la République, le leader du parti, le porte-parole du gouvernement.
Ça fait du monde.
Quatre interventions juste pour quand même auditionner contre une audition, une seule audition de Monsieur Benalla. On a l'impression qu'ils ont peur de quelque chose. Et ce qu'on sait, nous qui faisons des enquêtes, et ce qu'on a dans le journal de cette semaine, c'est qu'effectivement il y a d'énormes contradictions entre ce qui est dit, par exemple dans le dossier judiciaire auquel les journalistes arrivent à avoir accès, et ce qui est dit dans les commissions d'enquête. On a fait le compte, notre journaliste a refait le compte, et il y a d'énormes contradictions entre ce qui est dit d'un côté et ce qui est dit de l'autre. Donc effectivement, le spectacle du mensonge ou des demi-mensonges ou des omissions, etc., c'est très dommageable pour la crédibilité de l'exécutif.
Oui.
Excusez-moi, j'allais dire du gouvernement.
En haut du
château, comme on disait.
Amdam Mostafavi, vous partagez le point de vue d'Hervé Nathan, il y a quelque chose de l'ordre de la crainte au plus haut niveau du pouvoir.
Bah, disons qu'on se dit que là, s'ils n'ont plus rien à cacher, ils auraient tendance à faire profil bas et à laisser ce jeune homme aller auditionner et l'affaire serait close. S'il y a autant de tensions autour de cette affaire, il faut se rappeler que c'est quand même une séquence. D'abord, Emmanuel Macron a été très dur envers les journalistes en disant que la presse disait n'importe quoi. Maintenant, c'est le Sénat qui fait n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tous les contre-pouvoirs font soudain n'importe quoi. Alors, ça donne l'idée qu'il y a quelque chose derrière qui ne veut pas montrer.
En tous les cas, il y a de l'info joyeuse malgré tout, puisque le même Christophe Castaner, je le cite, déclare dans le journal Le Monde, en fait, M, le mag qui sort ce week-end, « Macron, c'est la fulgurance, c'est mieux encore que Mbappé, c'est Zlatan ». Emmanuel Bachelry, j'espère que ça vous inspire, ce type de propos.
Non mais, enfin, la politique, c'est de la communication, donc ça fait partie du jeu. Si on revient au nœud de l'affaire, il y a une mise en examen. Monsieur Benalla, il est mis en examen, donc il y a une enquête en cours, il y a une instruction en cours, et il y a une commission d'enquête parlementaire qui est aussi en cours. Emmanuel Macron, depuis son élection, a été franchement jusqu'à l'été 2017 quasiment dans un sans-faute. Il y a eu quelques petites, mais en termes d'exposition et de prise de parole, il a été quasiment sur un sans-faute. Là, depuis le début de l'été, c'est assez étonnant parce que on sait bien que d'une affaire, si on remet un peu d'huile sur l'affaire, ça va faire l'affaire au carré. Et puis ensuite, on en remet un peu, ça fait l'affaire au cube. Donc, alors que là, encore une fois, il y a une commission d'enquête et une instruction en cours, que ça se développe et que tout le monde laisse les gens travailler, c'est-à-dire les parlementaires d'un côté et l'instruction de l'autre.
Vous nous dites, en fait, ce soir, que ce serait mieux un no comment, tous azimuts, et qu'on laisse filer le...
Évidemment, parce que quand vous êtes sur un cas de crise, si vous rajoutez de la crise à la crise, vous n'avez pas une sous-crise, vous avez une sur-crise.
Alors, pendant ce temps, il y a une personnalité qui peut retrouver éventuellement le sourire, c'est Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, qui fait sa rentrée ce dimanche à Fréjus, avec les caisses du parti vides, et tout de même créditée à jeu quasi égal avec La République En Marche dans les intentions de vote aux élections européennes de l'an prochain. C'est notre enquête que nous avions détaillée hier soir au Doxa Dansu Consulting pour France Info Le Figaro. Jérémy Pelletier, 21% pour Marine Le Pen, 21,5% pour la majorité qui soutient le président Macron. Qu'est-ce que cela dit aujourd'hui de l'état de l'opinion française?
Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, malgré la situation catastrophique, notamment d'un point de vue financier, évidemment, du Front National, pour le moment, il résiste bien. Effectivement, vous l'avez dit, 21%. La République En Marche, 21,5%, qui a perdu, en fait, beaucoup de points par rapport à la précédente enquête avant l'été, avant cet été finalement désastreux, évidemment, pour le président de la République et pour la majorité. La République En Marche était entre 23 et 26%. Il se retrouve aujourd'hui talonné par, le Front National. Effectivement, on le sait très bien, c'est une élection pour le type de parti comme le Front National. Quand vous regardez les priorités des Français pour cette élection, évidemment, on est sur des préoccupations d'abord hexagonales, on est sur le pouvoir d'achat,
la première
est hexagonale, deux autres sujets, immigration, sécurité.
Enfin, je veux dire, peut le sujet européen, comme des sujets
absolument,
quasi européens maintenant.
Traité européen, mais je veux dire, le sujet de la construction européenne en soi est pur et arrive totalement à la fin, à part chez les sympathisants, effectivement, de la République En Marche, qui place cette préoccupation en tête, évidemment, des priorités pour ces élections européennes. Donc, effectivement, le Front National résiste bien pour le moment. Je pense que va se créer, de toute façon, ce que veut créer aussi une partie de la majorité, à savoir cet affrontement entre une partie les ouverts et ceux très ouverts à l'Europe et à tout ce que cela implique, et l'autre partie des souverainistes que compose, évidemment, le Front National.
Hamdan Mostafavis, ça sent la vague eurosceptique, europhobe aux prochaines élections, ça?
En tout cas, c'est la communication pour le coup qui essaye de jouer les deux camps, hein. C'est-à-dire que à la fois du côté de l'extrême droite européenne qui est incarnée non seulement par Marine Le Pen mais aussi par Matteo Salvini en Italie ou par Viktor Orban plus loin en Hongrie. Tout cela se met tous contre Macron, qui incarnerait justement, défend l'idéal européen, qui alors que l'Allemagne, Merkel est quand même dans une situation aussi compliquée, est un peu le dernier rempart européen. Donc tous les deux camps essayent, et ça sert aussi Macron, hein, puisque Macron se pose aussi du coup en rempart contre toute l'extrême droite en Europe. Donc ça crée un clivage assez radical qui peut aussi comporter des dangers des deux côtés.
On va poursuivre sur ce thème dans un instant. Il est 20h20 sur France Info, le rappel de l'info. Avec vous, Claire Flochel.
L'ex-directeur de campagne Paul Manafort accepte de plaider coupable de conspiration contre les États-Unis et d'entrave à la justice, en accord conclu avec le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Trois Palestiniens, dont un enfant de 12 ans, tués par des tirs de soldats israéliens lors de manifestations dans la bande de Gaza, le long de la frontière avec Israël. Cela porte à 179 le nombre de Palestiniens tués depuis le début des manifestations, fin mars. Un plan vélo présenté par le gouvernement, 350 millions d'euros sur 7 ans pour tripler la part de vélos dans les déplacements quotidiens et atteindre les 9%. Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté des mesures cet après-midi à Angers, notamment pour aider les collectivités locales au développement des pistes cyclables. La vitesse sur le pont de l'île de Ré passe de 80 km/h à 50 km/h dès ce soir et les poids lourds sont interdits après la rupture d'un des 72 câbles qui soutiennent le pont. Pas d'inquiétude, aucun risque qu'il ne s'écroule. Il s'agit de mesures de précaution pour ne pas endommager les autres câbles. Et puis un succès pour le loto du patrimoine, plus de 2,5 millions de tickets à gratter à 15 euros vendus en un peu moins de 15 jours avant un tirage dans quelques minutes. Les 15 à 20 millions d'euros collectés grâce au jeu devraient permettre de subventionner la restauration de 270 sites ou monuments français en péril.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Les grandes manœuvres européennes ont donc déjà commencé et pour l'eurodéputé et vice-président du Rassemblement National, Nicolas Bay, qui était l'invité tout à l'heure de l'Instant Politique sur France Info, eh bien le sondage que nous évoquions à l'instant dessine deux camps bien distincts.
Le sondage, il montre qu'il y aura une ligne de partage très claire. D'un côté, Emmanuel Macron, qui finalement veut aller encore plus loin dans la logique de l'intégration européenne, encore plus loin dans la Commission européenne qui détient tous les pouvoirs, toujours plus de traités de libre-échange, toujours plus de concurrence déloyale, toujours plus d'immigration. Nous, on défend l'Europe des nations, la vraie Europe, pas l'impuissance collective que l'Union européenne organise depuis des décennies.
Hervé Nathan, c'était un peu couru d'avance, non, ce qui se passe là, en ce moment, sous nos yeux?
Bah, d'une certaine manière, là on va revenir à la stratégie politique, mais c'est ce que semblait vouloir Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit veut rassembler tous les défenseurs de l'Europe contre tous les nationalistes. Bah, c'est ce qu'il va avoir. Il n'est pas sûr qu'il gagne hein, sur ce jeu-là. C'est un jeu extrêmement dangereux et à mon avis extrêmement pervers.
C'est risqué.
Oui, c'est risqué. En 2005, souvenez-vous du référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005. Ça a fini par un combat acharné et à coups de couteau où les partisans de l'Europe ont accusé tous les autres d'être des xénophobes. Le problème, c'est que d'abord, ils n'étaient pas tous xénophobes, mais en tout cas, ils se sont montrés largement majoritaires. Et c'est comme ça que le nom est passé, parce que le sectarisme des pro-européens avait dépassé toutes les bornes. Et le risque qu'on a là, c'est là, c'est qu'on risque de voir se répéter le même scénario, avec cette fois-ci des gens qui sont installés sur l'opposition. En plus, l'accent va être mis sur ce scrutin sur l'immigration, ce serait une question très importante, et c'est pas très bon pour l'autre alternative à Macron, de fait, qui serait la France soumise. C'est un débat compliqué pour eux, et en interne, c'est très compliqué. C'est évidemment un formidable propulseur potentiel pour le vote, Rassemblement national, à le dire, et c'est un risque que le président Macron a pris sciemment.
Immigration, deuxième item, et terrorisme, qui est assez connexe, dans l'esprit de beaucoup de gens. Troisième item de ce sondage. Mmh. Emmanuel Bachelry, est-ce qu'il y a un risque qui est pris par le chef de l'État dans cette volonté de se poser en rempart du camp adverse?
Il y a pour prolonger les propos d'Hervé il y a quelques secondes, j'ai une phrase qui m'est venue, c'est qu'il faut que tout change pour que rien ne change, en fait.
Pourquoi vous dites ça?
Parce qu'en 2005, il faut se souvenir du débat sur le traité constitutionnel. Il y a eu une vraie convergence à la fois politique et médiatique à l'époque de soutien au traité. Résultat des courses, c'est le nom qui l'a emporté.
Qui était gagné d'avance.
Laurent Fabius a, à mon avis, fait basculer parce qu'il faisait partie des camps entre guillemets progressistes et il s'est exprimé sur le nom. Bon, mais le nom l'a emporté alors qu'il y avait une vraie volonté de convergence. Il faut se souvenir que Paris Match, par exemple, avait fait une photo avec Nicolas Sarkozy et François Hollande en soutien du oui. Donc, on est en 2018. Je pense que dire l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est le rempart. Ça va être un argument, à mon avis, relatif et auquel il faut faire attention, parce que l'Europe est depuis 40 ans le paillasson des erreurs de tous les gouvernements, et on s'essuie les pieds dessus pour masquer des carences intra-territoriales, donc dans chacune des nations qui composent l'Europe, alors que c'est un projet, même si chacun exprimera ses idées s'il le souhaite, mais en tout cas c'est un projet magnifique, politiquement en tout cas, et qu'il faut le défendre, il faut qu'elle soit plus concrète, et il faut que les Français, en tout cas au niveau hexagonal, le sentent comme un bouclier. Et je reviens sur les chiffres, c'est ce qui est intéressant quand on regarde l'étude de Doxa, c'est que le Rassemblement National est crédité de 21% d'intention de vote, il avait fait 25 au dernier en étant premier parti de France. Mmh. Mais il avait fait 25, c'est-à-dire 4 points de plus. Là, ce qui est étonnant à regarder, c'est le camp des pro-européens, toutes tendances politiques confondues,
quand on additionne
les Verts, le PS et La République En Marche, et voir le camp et l'addition des scores d'intention de vote, en tout cas, des anti-européens, qui sont largement majoritaire et bien au-delà de 55%. Et c'est ça qui devra alerter, à mon avis, le président de la République, qui, effectivement, pour le moment, tant que la tête de liste n'est pas nommée, est en première ligne.
Hamdam Mostafavi, ce sondage pourrait quasiment se décliner dans plusieurs pays de l'Union européenne. Dans le courrier international, vous nous racontez des choses assez similaires, finalement.
Oui, dans toute l'Europe, il y a ce clivage entre les progressistes qui veulent plus d'Europe et ceux qui veulent beaucoup...
C'est assez binaire, finalement.
Oui, c'est assez binaire. Mais après, on a vu, par exemple, au Royaume-Uni, où il y a eu le vote sur le Brexit, qui s'est fait de manière très, très serrée. Finalement, les eurosceptiques sont quasiment aussi nombreux que les europhiles au Royaume-Uni. Et pourtant, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Oui. Et il y a quand même le Parlement... l'Europe a voté hier contre la Hongrie. C'est quand même la première fois qu'il y a un vote du Conseil de l'Europe contre un État membre. La Hongrie, qui est dirigée quand même par un dirigeant qui est aussi anti-européen. On a le même phénomène en Italie, où l'homme politique aujourd'hui qui a le vent en poupe dans toute l'Europe, malheureusement, c'est Matteo Salvini, qui est très anti-immigration, qui est contre l'Europe.
Qui a surfé sur le ras-le-bol des Italiens d'être en première ligne à Lampedusa.
Donc il reste peu d'hommes politiques, d'hommes ou de femmes politiques en Europe qui défendent cet idéal européen. Donc c'est le pari qu'a fait Macron, mais en effet, comme on le dit tous, c'est assez risqué.
Vous évoquiez Orban, il y a eu ce vote cette semaine, même au sein du PPE, Jérémy Pelletier, il s'est attangué des voix des Républicains ont voté contre la procédure de destitution, etc. C'est la droite droite qui paie les pots cassés aussi de cette affaire. Hein.
Oui, oui, aussi. Mais ce qui tangue aussi sur l'ensemble du continent, c'est l'essor de ce qu'on appelle les démocraties libérales. Ce qui fait tanguer l'Europe aujourd'hui, c'est l'essor et l'émergence de ce qu'on appelle la déconsolidation démocratique, ce qu'a très bien analysé un grand universitaire qui s'appelle Yasha Mung, qui était de passage en France il n'y a pas très longtemps. Je crois que l'enjeu là du moment, et d'ailleurs, on fait le lien avec le sujet précédent sur la démocratie, sur le Sénat. Je dis, à un moment donné, si on n'a pas une expression forte et protectrice sur la démocratie, sur les institutions, je vous assure que ça tangue vraiment.
Allez, on va marquer une pause hein, pour la météo et les infos. Et on va évoquer ensuite redevance télé, plan vélo et objet de collector. Si vous analysez, ça va être assez amusant. À tout à l'heure.
Mercedes-Benz. Mesdames, messieurs, nous faisons face à un alignement d'étoiles exceptionnel. Un phénomène rare.
Mais professeur, aurons-nous les bonnes conditions pour les observer?
Vous aurez les meilleures conditions. Et pour les observer, vous n'aurez pas besoin de lever les yeux au ciel.
Du 10 au 20 septembre, Mercedes-Benz aligne ses plus beaux modèles durant les Star Days. 10 jours pour profiter de la boîte automatique offerte sur toute la gamme. Voir conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
C'est du beau temps, un peu frisqué ce matin, souvent 5 à 13 degrés, mais encore 16 à 21 autour de la Méditerranée. De la Bretagne à la frontière belge, c'est changeant, partagé entre nuages et éclaircies. Quelques nuages aussi sur la façade est, sur les Pyrénées. Et puis sur la Côte d'Azur, il faut composer avec la grisaille. Elle ne laissera passer que des éclaircies timides cet après-midi. Partout ailleurs, c'est du soleil. Cet après-midi, il va faire 19 degrés à Étretat, 21 à Nancy et à Brest, 22 degrés à Paris, 23 à Colmar, à Angers, 27 pour Lyon, Toulouse, Nice, 29 degrés à Narbonne et 30 à Avignon. Demain, ce sera estival, du soleil avec une moyenne de 26 degrés au nord et de 29 au sud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir Julien Langlais.
Bonsoir. La cour d'assises de Paris a condamné ce soir l'ancien skinhead Esteban Morillo à 11 ans de prison pour la mort il y a 5 ans du jeune Clément Méric à Paris. L'un des deux co-accusés, Samuel Dufour, est coplu de 7 ans de détention. Le troisième, Alexandre Hérault, a été acquitté. L'avocat général avait requis 12 ans de prison contre le principal accusé, dont l'avocat d'ailleurs de ce dernier vient d'annoncer son intention de faire appel. L'équipe de France de tennis mène 2-0 face à l'Espagne. Ça se passe au stade Pierre-Mauroy de Lille. Benoît Paire s'est facilement imposé 3-7-0 contre Pablo Carreño Busta et Luca Puy l'a emporté contre Roberto Bautista Agut sur le score de 3-7-2. Dans l'autre demi-finale, la Croatie mène 2-0 contre les États-Unis. La Ligue 1 de football fait son retour avec 2 matchs avancés de la 5e journée à 20h45. Paris reçoit Saint-Etienne et depuis 19h, Nice reçoit Rennes. Dominique Poulain, où en est-on? Deuxième période?
Deuxième période, effectivement, 72 minutes de jeu dans cette seconde période et ce sont les Rennais qui mènent 1-0 depuis la 58e minute. Et là, eh bien, on attend la décision de monsieur Miguel Gori, parce qu'il y a un Niçois qui s'est écroulé, à savoir Attal, dans la surface de réparation rennaise. Assistance vidéo et on attend la décision de l'arbitre de la rencontre, savoir s'il va accorder le pénalty pour les Niçois ou si au contraire eh bien, il va le refuser. En tout cas, les Rennais qui ont loupé un pénalty en première période, c'est Bourigeaud qui a vu sa frappe repoussée par le gardien niçois Benitez, et des Rennais qui sur l'ouverture du score ont été chanceux parce que au départ de l'action, c'est Del Castillo qui récupère un ballon à l'intérieur de la surface de réparation. Il arme sa frappe n'est pas cadrée mais elle est déviée par le défenseur niçois Malansart qui trompe son propre gardien. Toujours est-il que ce Rennes mène 1-0 et on attend toujours la décision de monsieur Miguel Gori pour savoir s'il va accorder ou non le pénalty au niçois.
Suspense, merci Dominique Poulain. Un bon cru pour Pinot ce Tour d'Espagne, deuxième victoire d'étape aujourd'hui pour le français dans la Vuelta. Il a devancé le britannique Simon Yates qui qui a conforté lui sa place de leader au classement général. Christophe Castaner se fâche, il s'en prend au Sénat qui doit auditionner mercredi Alexandre Benalla lors de la conférence de presse de rentrée de La République En Marche. Il a mis en garde la Chambre haute contre toute visée politique à l'encontre d'Emmanuel Macron. Et puis les Philippines en état d'alerte, des vents à plus de 200 km/h soufflent actuellement à cause d'un super typhon. Les autorités ont demandé à plus de 5 millions d'habitants de rester cloîtrés chez eux. 20h33 sur France Info, le retour de Jean-François Killy bien sûr. Les informés sur France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Hamdam Mostafavi qui est rédactrice en chef à Courrier International, Hervé Nathan, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Jérémy Pelletier, le directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, et Emmanuel Bachellery qui est communicant et directeur général de Brest Ultime Sailing. Alors les foyers fiscaux vont-ils tous payer la redevance avec ou sans la télé dans le salon? Le gouvernement vient d'ouvrir aujourd'hui le chantier de la réforme de la contribution à l'audiovisuel public. Les temps changent, les modes de consommation des médias aussi. En clair, si les Français regardent encore massivement la télé chez eux, eh bien la proportion de foyers sans télé va grimper peut-être entre 10 et 20% en 2020. Moralité, eh bien la redevance risque de gagner les smartphones. Le gouvernement a évolué sur le sujet. Écoutez cet échange, c'était en juin dernier sur CNews, entre la ministre de la Culture et Jean-Pierre Elkabbach. Question, allez-vous toucher à la redevance?
Non, très précisément non, et c'est un sujet pour plus tard. Aujourd'hui, on n'y touche pas, on parle de l'offre, on ne parle pas, c'est pas une réforme de la contribution à l'audiovisuel. On a pensé cette réforme d'abord au niveau de l'offre. Ce n'est pas une réforme budgétaire, et ces chiffres sont objectivement totalement fantaisistes par rapport à ce que nous voulons faire.
Hervé Nathan, Françoise Nyssen disait peut-être pour plus tard, y sommes donc.
Là, voilà, un an plus tard.
Donc la redevance ne sera plus celle que nous avons toujours connue.
Toujours connue, non, vous n'êtes peut-être pas assez vieux, mais avant, il y avait une redevance sur les postes de radio.
C'est vrai.
Voilà, elle a été supprimée, on a décidé que finalement c'était pas la peine, comme tout le monde avait une télévision, c'était pas la peine de frapper les postes de radio, donc ça peut se modifier. Madame Nyssen, elle est devant un double problème, c'est que d'une part, effectivement, il y a un changement des modes de consommation. Si vous, les jeunes n'achètent plus de téléviseurs, ils regardent sur leur ordinateur, sur leur smartphone, etc. Donc effectivement, le mode de diffusion est différent. Et il y a quand même un principe d'égalité des Français devant la... Alors sinon l'impôt, du moins la redevance, c'est-à-dire il n'y a pas de raison que...
Vous trouvez ça juste, vous, de taxer tous les écrans par-delà les téléviseurs?
À partir du moment où l'image... se diffuse, sort de l'écran de télévision et va se diffuser sur les écrans que vous avez dans vos poches, ça pose un problème. L'autre problème, c'est qu'en fait, la réforme que prépare Madame Nyssen, que vous êtes déjà peut-être en train d'appliquer dans cette maison, c'est d'être multicanaux, c'est-à-dire de plus être simplement sur un poste de télévision. L'ambition France Télévisions, c'est d'être sur l'internet, sur le web, etc., de faire du, etc. Et donc, vous-même, vous avez mis le doit dedans d'une certaine façon.
Hamdam Mostafavi, c'est une réforme, si elle aboutit, qui risque de faire frémir les jeunes utilisateurs de smartphones qui ne sont plus sur la télé. C'est fini, ça.
Oui, surtout, est-ce qu'ils ont conscience de ce que c'est que l'audiovisuel public? Quelles chaînes ça implique? Est-ce que ce sont des programmes qui sont regardés par la jeunesse qui est quand même majoritairement sur YouTube ou sur des réseaux sociaux type Snapchat ou Instagram? Enfin, c'est, disons que la vidéo, la télé à l'ancienne, entre guillemets, c'est quelque chose qui est quand même encore très, très, très courant. Mais c'est vrai que pour les jeunes générations, même le contenu des programmes de France 2, je suis pas totalement sûre qu'un jeune de 18 ans peut
dire. Vous voulez dire que ça ne se justifierait plus?
Ce serait difficile à justifier.
Ici à Radio France et France Télévisions.
On écoute la radio, on aime la radio, mais ces générations-là, il faut aussi avoir une éducation à ce que c'est que l'audiovisuel public par rapport aux chaînes privées, par rapport à Internet, par rapport à YouTube.
Emmanuel Bachellery, vous êtes d'accord avec ça? Il y a une sorte de remise en cause implicite d'un service public de l'audiovisuel, pardon pour ce mot rétro, mais ça existe dans d'autres pays, BBC et autres.
Non, et puis c'est extrêmement important d'avoir un audiovisuel public fort. Enfin, on le voit en Angleterre, on le voit en Allemagne, on le voit en Espagne, on le voit en France. C'est fondamental pour que l'offre soit la plus diverse possible. La question du financement, elle se pose mécaniquement. Vous prenez l'âge moyen, je crois, des téléspectateurs de France Télévisions, toutes chaînes confondues, c'est plus de 55 ans. Donc vous regardez à l'inverse, vous regardez un jeune homme ou une jeune femme de moins de 20 ans qui regarde les programmes de France Télé ou d'autres types de programmes, il n'allume jamais la télévision. Donc sur le fond, Françoise Nyssen a la raison de poser la question, de dire aujourd'hui on consomme des programmes audiovisuels qui sont donc produits et donc qui coûtent, c'est toujours pareil, Monsieur Akili, il bosse pas gratuitement, les studios, ils coûtent de l'argent, donc la diffusion d'informations et la diffusion de programmes culturels ou de divertissement ou d'informations, ça coûte, donc forcément, il faut le financer. Après, sur la forme, c'est là où, je, de temps en temps, j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que Françoise Nyssen, qui est pas la plus éminente communicante du gouvernement depuis le début, on lui reproche suffisamment, mais là, elle va parler de fiscalité, d'augmentation éventuelle, et elle lâche ça dans le cadre d'un débat qu'elle fait en région, qui va évidemment va être repris partout, parce que l'augmentation d'une taxe aussi symbolique que la redevance, à minima, ça se prépare.
Donc, alors, il paraît que ça ne va pas augmenter, mais on va la payer plus largement.
C'est-à-dire qu'une taxe qui était sur X et qui est sur X plus 1, on peut appeler ça comme on veut, n'empêche que c'est une taxe qui augmente, parce que si l'assiette augmente, forcément, les recettes augmentent. Mais surtout, sur la forme, un sujet aussi sensible que la fiscalité depuis la réforme de l'ISF il y a un an. Oui. On fait juste un peu attention, on fait une lettre ouverte dans un quotidien, on fait en sorte de bien cadrer le message et ensuite que les autres le reprennent. Mais là, à dire, oui, on réfléchit éventuellement à ce que ça augmente ou à ce qu'on élargisse l'assiette et puis on part en week-end, c'est un peu compliqué.
Alors les 139 euros de cette contribution, de cette redevance, étaient prélevés en même temps que la taxe d'habitation. Jérémy Pelletier, on a envie de dire encore une affaire fiscale et qui va rejoindre le dossier ras-le-bol fiscal des Français.
Sauf qu'à la grande différence, là, les jeunes, on ne les entendait presque pas trop, en fait, sur ces sujets de fiscalité. Là, le risque, c'est qu'après ce type d'annonce, il y ait... Mais comme d'ailleurs François Hollande l'a connu, François Hollande, le gouvernement en tout cas de François Hollande, avait souhaité également faire ça et étendre effectivement la redevance aux possesseurs
dédié
de
à la mobiles. Jeunesse, donc,
et très vite, vous êtes aperçu qu'une petite fronde est montée comme étant une taxe anti-mobile, comme étant une taxe anti-jeune. Et effectivement, c'est peut-être le risque. Et là, donc, on étend effectivement l'assiette là pour financer les deux visuels publics, mais vous allez étendre peut-être l'assiette des mécontentements vis-à-vis de la fiscalité.
Ça fera peut-être remonter la cote chez les retraités d'une certaine manière. On dit enfin, on n'est pas les seuls à être touchés par la fiscalité Macron.
Encore une fois, c'était du velours. Aujourd'hui, encore une fois, on consomme France Télévisions ou France Info ou France Inter sur des tablettes ou sur son iPhone et tout le monde le sait. Donc il suffit de l'expliquer. Et en l'expliquant,
c'est une réforme, enfin, d'ordre fiscal qui peut se comprendre, s'admettre à partir du moment où elle est explicite, expliquée. Mais Nathan hoche la tête, il n'est pas convaincu.
Je suis pas convaincu parce que c'est le monde extérieur. Sur le principe, je suis d'accord. Il y a une logique à défendre le service public et donc à défendre l'extension à l'ensemble des consommateurs du service public le paiement. Il y a juste un problème, c'est que nous vivons dans un monde où où on est habitué sur le net à voir des images gratuites. Donc c'est un sujet que nous connaissons bien, nous, journaliste de l'écrit, mais ça va être très difficile d'expliquer à des jeunes, notamment, qui ont l'habitude de consommer gratuitement des tas d'images, que maintenant ils doivent payer de façon obligatoire et sous forme d'un impôt, parce que là ils diront mais moi si je payais, j'irai payer Netflix pour parler grossièrement et c'est mon choix. Ils réclameront le choix en disant moi je veux bien, si on me demande poliment, peut-être je paierai le service public ou je paierai Netflix.
Allez, 20h41, c'est le service public de France Info de l'information avec vous, Claire Flochel.
La cour d'assises de Paris condamne ce soir deux ex-skinheads à des peines de 11 et 7 ans de prison pour la mort il y a 5 ans du militant antifasciste de 18 ans Clément Méric, battu à mort. Le troisième accusé, qui n'a pas porté de coup, est acquitté. Un animateur périscolaire de Courbevoie condamné à 15 ans de prison. L'homme était jugé aux assises des Hauts-de-Seine depuis une semaine pour avoir violé deux enfants et agressé sexuellement 13 autres dans trois écoles de Courbevoie en région parisienne. Les Philippines se préparent à l'arrivée d'un super typhon. Demain, les services météorologiques prévoient des vents pouvant aller jusqu'à 255 km/h dans le nord de l'archipel. Plus de 5 millions d'habitants sont appelés à rester barricadés chez eux. Recep Tayyip Erdogan devrait à nouveau tenter d'arracher un cessez-le-feu à Idlib lundi. Le président turc doit rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, à Sotchi, en Russie. Ankara craint qu'une offensive d'ampleur dans la dernière enclave rebelle en Syrie ne provoque un afflux de réfugiés vers son territoire. La Turquie accueille déjà plus de 3 millions de Syriens. Et puis en tennis, Lucas Pouille offre un deuxième point à la France en demi-finale de la Coupe Davis face à l'Espagne. Le premier point a été décroché un peu plus tôt par Benoît Paire. Prochaine étape de cette demi-finale, le double Mahut-Benneteau demain à 14h.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Avant d'enfourcher notre bicyclette, je crois qu'Emmanuel Bachellerie veut revenir sur la redevance télé. Vous n'avez pas envie de la payer ce soir, vous, hein ?
Non, mais c'est pas une histoire de la payer ou pas. C'est simplement que ce que dit Hervé est parfaitement exact. Les jeunes, ils consomment probablement assez peu de programmes de France Télévisions ou de Radio France, avec tout le respect que j'ai pour cette maison, sur leur smartphone. Bon, mais justement, il y a aussi un travail pédagogique à faire. Pardon. Il y a un travail pédagogique à faire quant au fait que les programmes produits par France Télévisions et par Radio France sont des programmes de qualité, sont des programmes de référence et, par voie de conséquence, coûtent quelque chose. Si vous n'expliquez pas les choses aux gens, ils ne peuvent pas les comprendre. Ou alors, ils les comprennent à rebours. Donc là, c'est encore une fois, c'est la méthode, c'est pas forcément le fond. Chacun peut comprendre que quand on regarde un programme, il y a un réalisateur, un scénariste, un monteur, un musicien, un diffuseur.
Donc vous dites, il faut expliquer les choses.
Sur le métier et après sur la politique, je pense que tout projet politique s'explique. Et en l'expliquant, je dis pas qu'il va rassembler une majorité de citoyens, mais au moins, il faut l'expliquer. Et sur un sujet, encore une fois, aussi sensible que la fiscalité, vous lâchez pas une bombe comme ça et puis vous prenez votre voiture.
Madame Mostafavi, encore un mot là-dessus.
Oui, un dernier mot, mais ça fait déjà pas longtemps qu'on s'est habitué à, enfin, qu'une certaine génération s'est habituée à payer pour les contenus sur Internet, parce qu'il y a encore, jusqu'à très peu de temps, on était embourbés dans le téléchargement illégal. Oui. Donc c'est vrai que maintenant.
L'empire de la gratuité.
Voilà, l'empire de la gratuité est en train de reculer au profit, justement, des Netflix et autres, mais de là à arriver, en effet, c'est par la consommation, enfin c'est par la création de contenus qui pourront plaire aussi à cette génération-là qu'on peut faire passer ce genre de message.
Et pour finir, Jean-François, il y a comme disait l'autre, il n'y a rien de plus cher que le gratuit, et c'est éminemment vrai. Deuxième petite chose, c'est qu'il faut, encore une fois, il faut emmener les gens. Il faut emmener les citoyens vers quelque chose de qualitatif, et la qualité coûte quelque chose. C'est aussi simple que ça.
Allez, à propos de changement et de qualitatif, l'après Hulot sera-t-il écolo ? Édouard Philippe s'est rendu à Angers, accompagné de ses deux ministres dédiés, hein, François de Rugy pour l'écologie et Elisabeth Borne pour les transports, pour déployer le plan vélo du gouvernement dont nous vous parlons depuis ce matin sur France Info. Le Premier ministre chez nos amis de France 3, Pays de la Loire.
Nous avons pris un certain nombre de mesures qui commenceront à s'appliquer dès 2019, faire en sorte qu'il y ait des sas systématiques au feu rouge pour que lorsque le trafic repart, les vélos soient devant et pas coincés entre un camion ou une voiture et le bord de la route. Des mesures en matière de sécurité, des mesures en matière de formation et puis des mesures importantes, notamment l'instauration d'un forfait mobilité durable qui permettra aux employeurs qui le souhaitent d'accorder un forfait de 200 ou jusqu'à 400 euros.
Amdam Mostafavi, les Français sont nuls à vélo ?
Non, c'est pas vrai.
Je parle du vélo pour aller au travail.
Hein. C'est sûr que c'est un tout petit pourcentage de la population qui prend son vélo pour aller au travail, mais ça commence de plus en plus à s'instaurer.
À venir,
oui, moi qui suis cycliste dans Paris, je peux vous dire que de plus en plus...
Vous allez au bureau à vélo.
Tout à fait, en vélo électrique. Je pense que de plus en plus, il y a du vélo, mais c'est sûr qu'on est très loin d'autres modèles européens. Là, on sait aussi que, par exemple, le maire de Londres investit massivement dans les pistes cyclables, etc. Oui. Après, c'est sûr que l'idée, c'est de l'étendre aussi à toute la France, parce qu'à Paris, il y a eu quand même un effort qui a été fait. Il faut voir aussi comment ça peut s'étendre un peu partout.
Alors justement, Jérémy Pelletier, ce sont des politiques publiques qu'il faut mener à bien. C'est de l'ordre de la commune, ou du moins de la métropole, ou c'est une impulsion gouvernementale qui doit démarrer là-dessus.
Bon, d'abord, c'est pas le premier plan. Il y a eu deux plans précédents, enfin deux plans vélo. Oui. On en entend régulièrement. Il y en a eu un en 2012, je crois. Il y en a eu un en 2014. Il y en a eu un nouveau ici. Bon, en plus, ça permet, je crois, au nouveau ministre de l'écologie et de l'environnement de faire sa première sortie et ses premières annonces en termes de politique publique. Donc,
enfin, c'est le Premier ministre qui parle. Là.
Évidemment, oui, mais il était en déplacement avec le Premier ministre à Angers. Mmh. Évidemment, le vélo, c'est important. La France est en queue de peloton, en plus en Europe, en termes d'utilisation du vélo, notamment pour les distances entre le travail et le domicile. Le problème, mais ça, c'est à titre personnel, c'est que là, on ne parle qu'à une seule France. Il faut être très clair, on ne parle qu'à une seule France, on parle qu'à la France des métropoles, on parle qu'à la France des grandes villes. Évidemment, c'est un enjeu qui est central, c'est un enjeu qui est fondamental pour lutter contre la pollution, pour lutter contre la massification des voitures. Évidemment que c'est fondamental. Après, c'est en termes de symbole. Est-ce que, à un moment donné, notamment dans cette rentrée politique, c'est pas, je sais pas, là, on n'est pas effectivement à la veille des élections municipales, mais est-ce que ce serait pas aussi à la France des villes moyennes d'être un peu mise en lumière? Est-ce que c'est pas à la France des petites villes, des zones rurales qui, de fait, et je le pense sincèrement, n'est absolument pas concerné par ce type de plan.
Ah, vous dites ça, vous. Hervé Nathan, est-ce que c'est une mesure jambe gauche, même s'il faut deux jambes pour pédaler, hein ?
Oui, il faut deux jambes pour pédaler. Oui, c'est un peu une mesure jambe gauche. Elle a été préparée par Nicolas Hulot. Hein, le plan vélo, il n'a pas été fait en 8 jours. Donc, on peut imaginer que...
C'est une mesure Hulot pour vous.
C'est quand même, ça porte la patte de Nicolas Hulot et pas celle de François de Rugy. François de Rugy, ça lui permet de faire une première sortie, ouais, de faire un petit peu oublier qu'il a autorisé plusieurs autoroutes, des constructions d'autoroutes, une entre Toulouse et Castres, le contournement de la ville de Strasbourg aussi. Il a fallu évacuer des campeurs. Il y avait quasiment un campement style Notre-Dame-des-Landes autour, oui, de Strasbourg. Je crois qu'il y a une forêt primaire, si je me souviens bien, dans cet endroit-là. Enfin, c'est une zone très, très sensible du point de vue écologique. C'est pas grave, on va betonner ça sur 60 mètres de large. Mais c'est pas grave, on a le plan vélo, donc on n'a pas parlé du contournement de Strasbourg. Voilà.
Emmanuel Bachelry, je vous ai vu acquiescer en écoutant et en voyant donc le Premier ministre.
Oui, parce qu'en tout cas, en termes d'annonce et d'exposition, c'est propre. C'est-à-dire qu'il arrive, il a un budget.
Vous voulez dire l'annonce ou
l'annonce du plan vélo. Oui. Il arrive, il est entouré de ses deux ministres, les transports et l'environnement. Il est entouré donc de ceux qui vont incarner ça. Il annonce, il arrive avec un budget, il arrive avec des actions et un plan de déploiement. Après, c'est effectivement pas le sujet du siècle. Un plan vélo sur un PIB de 2000 milliards, quand on est à 350 millions d'euros, c'est pas stratégique. Néanmoins, en termes d'exposition et d'annonce et de partage, c'est propre. Voilà. Et d'ailleurs, à tel point, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en entend pas parler du tout. Donc ça veut dire que ça a été bien fait.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de...
En termes de polémique,
zéro.
Il arrive, il va en région, il entoure de ses ministres, il fait son plan, il donne les chiffres, les perspectives et les objectifs, c'est propre.
Voilà. Jérémy Pelletier, c'est propre, comme le vélo d'ailleurs.
Non, mais là pour le coup je partage Emmanuel, et en plus c'est son métier, donc là pour le coup je partage totalement. Après on n'entend pas beaucoup parler... Mais parce que je pense que ça concerne une infime partie de la population française. Enfin, très sincèrement, je suis certain.
Alors, c'est très bien. Des
je pense qu'effectivement, ça concerne
que tout le monde s'en fiche.
Non, je dis pas que tout le monde s'en fiche parce que c'est quelque chose d'important. Mais je pense que la vie quotidienne, les villes moyennes, la France rurale, c'est encore ce qui est composé de d'une des plus grandes parties de la population de ce pays, et donc de fait, qui ne peut pas se sentir concerné par ce type de mesures.
Alors, pour atténuer un peu, parce que c'est quand même important, il y a une très importante partie des déplacements professionnels se font et ils ont, bon, je pas les chiffres au pense tout temps je prends, mais il y a un bon nombre de déplacements professionnels qui font moins d'1,5 km, qui pourrait tout à fait être fait en vélo, notamment dans les grandes villes. Mais c'est pour ça que c'est pas si secondaire que ça. Mais c'est vrai que 350 millions d'euros sur un budget annuel, c'est relatif.
En tout cas, ici, sur ce plateau, c'est Hamdam Mostafavi qui donne l'exemple. 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
Jean-Luc Mélenchon fustige une escalade sans précédent entre le gouvernement et le Sénat. Un bras de fer à propos de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Ce matin, Christophe Castaner, chargé des relations avec le Parlement, a mis en garde des sénateurs qui tenteraient de s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République. Jean-Luc Mélenchon dénonce une crise d'autorité. L'ex-directeur de campagne de Donald Trump plaidera coupable dans l'affaire de l'éventuelle ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016. Paul Manafort a passé un accord avec le procureur spécial chargé de l'enquête. Les États-Unis, par ailleurs frappés par Florence, l'ouragan ravage la Caroline du Nord, selon le gouverneur de cet État de l'Est des États-Unis. Des pluies diluviennes qui s'abattent en ce moment et inondent plusieurs villes. Des centaines de milliers de foyers sont privés d'électricité et des opérations de secours sont lancées. 4 hectares de broussailles partis en fumée dans les calanques de Marseille. L'incendie démarré ce matin est maîtrisé. 80 marins, pompiers mobilisés ainsi que 4 canadaires. Une imprudence est sûrement à l'origine du sinistre. Un reste de bivouac a été retrouvé sur place. On rappelle que les feux et les campements sont interdits dans le parc national. Et puis la Ligue 1 de football a repris ce soir, fin de la trêve internationale. Le PSG affronte en ce moment Saint-Etienne. Le coup d'envoi vient d'être donné. Le match Nice-Rennes est sur le point, lui, de s'achever.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors le sujet fait jaser, hein. Il y en a plein les réseaux sociaux depuis la publication de l'article du Parisien ce matin. L'Élysée qui met en vente ce week-end 56 produits dérivés à l'occasion des journées du patrimoine, des mugs, des t-shirts, des cahiers de coloriage ou des macarons bleu, blanc, rouge signés Pierre Hermé. Vous allez entendre le célèbre pâtissier et quelques témoignages sur cette initiative élyséenne.
Framboise, vanille et cassis. Le cassis, il a fallu un petit peu rendre le macaron un petit peu plus bleu pour que ça corresponde aux couleurs du drapeau français.
Moi, je trouve que c'est très bien ça. Première dame, en plus, c'est nickel.
Bon, l'Élysée, c'est quoi? C'est la France, ça nous appartient à tous. Bon, si on doit la renouveler, c'est quelque chose de magnifique pour nous tous. Voilà, c'est magnifique. Voilà.
Je paye mes impôts, je n'ai pas envie encore de rebalancer. Moi, c'est le gadget, quoi.
Le sac et la montre, ça, c'est sympa. Mais sinon, ça fait plutôt marque de Monsieur le Président que marque présidentielle.
Hervé Latan, vous avez fait votre choix.
Sur Internet, j'ai trouvé des t-shirts absolument superbes. Alors, ils sont pas dans la collection officielle, mais ils sont inspirés de la collection officielle, puisque vous savez qu'il y a une collection de t-shirts officiels, donc de l'Élysée. Oui. Et alors, il y a plusieurs t-shirts qui sont apparus. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Free Benalla. Le t-shirt avec l'effigie d'Alexandre Benalla, marqué Free Benalla, c'est pour quand il ira en prison, il ira pas en prison, bien sûr. Mais, Free Benalla. Donc, il y a un concours sur Internet, je pense que c'est là qu'il faut aller faire ses emplettes. D'abord, c'est toujours moins cher sur Internet. Et puis, c'est plus drôle.
Amdam Mostafavi, vous validez cette initiative, au fond. Alors, il faut rappeler que 12% des ventes seront captées par la présidence et vont aller, au patrimoine, au financement du patrimoine.
Bon, le premier réflexe quand on voit ça, c'est qu'on pense que c'est une fake news et que c'est une blague. Mais après,
vous avez pensé ça, vous?
Ouais, j'ai pensé ça. Parce qu'honnêtement, le t-shirt avec écrit croquignolesque, c'est difficile d'y croire. Mais cela dit, en creusant un petit peu,
premier de cordée, ça aurait été mieux.
Et puis il y a quand même, l'image de Macron le jour de la victoire de la Coupe du Monde. Enfin, bon, passons. Et puis la tasse avec Macron, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est extraordinaire. Je crois que je l'avais. Mais bon, passons. Mais sur le fond, après, là où bon. Le côté on défend les entreprises françaises, l'image de la France, etc., c'est pas totalement à jeter à la poubelle. C'est pourquoi pas, on parle des marques françaises, on parle de ça, c'est toujours intéressant.
Jérémy Pelletier, il n'y a pas de mug Jean Jaurès qui est mis à la vente, mais est-ce que vous validez, vous, cette initiative? Est-ce que ça vous paraît un peu trop décalé?
Il n'y a pas de mug Jean Jaurès parce qu'on n'a plus assez d'argent, on n'a pas assez d'argent pour faire des mugs Jean Jaurès. Non, mais en fait, il y a un paradoxe parce qu'effectivement, c'est la mise en lumière de produits français, les montres LIP et tout un tas d'autres produits français. La mise en lumière de ces produits français, mais dans quelque chose finalement de très américain. Faudrait interroger Régis Debray, très sincèrement.
Américain ou famille royale, même.
Oui, mais là, ça fait très américanisation de la vie politique pour la mise en lumière de produits français. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça. Je pense que Régis Debray, qui pense que l'intégralité de notre vie politique s'est totalement américanisée, la voyelle, il y a un élément supplémentaire. En soi, bon, si ça peut mettre en lumière un certain nombre de produits français, il n'y a pas de mal à ça. Le faire, effectivement, au moment des journées du patrimoine, il n'y a pas non plus de mal à ça. Mais bon, malgré tout, je pense que c'est effectivement une communication très américaine.
Emmanuel Bachelry, pourquoi est-ce que cela fait autant couler d'encre, cette histoire?
Parce qu'on est un pays de satire. Donc un pouvoir en place qui se met à vendre des mugs et des macarons, c'est du pain béni. Mais dans le fond, c'est assez malin parce que ça, d'abord, en termes de calendrier, pour le coup, c'est réussi. Comme ça fait depuis une heure qu'on n'est pas forcément très là, on va être sympa. C'est vrai que c'est plutôt malin en termes de timing, oui. Parce que les Journées du Patrimoine, c'est ce week-end. Ça met en lumière et en avant l'artisanat français, donc c'est très bien. Et puis, je crois qu'on est un peuple qui aime bien ces petites choses-là, même si c'est très américain ou très anglo-saxon, parce qu'évidemment, ça rappelle la démocratie américaine ou la monarchie britannique. Mais on voit à chaque mariage des descendants de la reine d'Angleterre, on a le mug, la layette. Bon, donc c'est vrai que c'est un peu inspiré de ces territoires-là, mais je trouve ça plutôt malin. C'est plutôt doucereux et gentillet, ouais. Quoi.
Voilà. Alors Aurélien Tirard dans l'Oreillette me dit que certains t-shirts coûtent 55 euros, mais je crois que la moyenne c'est plutôt 15 euros pour ces produits. Hamdam Mostafavi, est-ce que certains ont raison d'y voir une sorte de personnification à outrance ?
Oui, forcément. Enfin, il y a forcément quelque chose dans la mise en scène, dans le côté. Et quand même le coloriage avec Emmanuel Macron, la première dame à côté, bon, il y a quand même un truc forcément énormément de mise en scène. Et puis imaginez si François Hollande avait fait ça, quoi. Juste imaginez, ça paraît, mais juste inimaginable. C'est complètement fou. Donc il y a forcément quelque chose qui est lié à sa personnalité qui fait que ça passe.
Allez, pas de commentaires. Au fait, Hamdam Mostafavi, qu'y a-t-il à la une de Courrier International?
Un autre personnage quand même bien connu, l'impossible Monsieur Trump. Donc on revient cette semaine sur la grande enquête de Bob Woodward contre Donald Trump et toutes les dérives un peu à la
Maison
Blanche.
Avec une caricature extraordinaire. Voilà. À la une également de Marianne avec vous, Hervé Nathan.
Eh bien, c'est un peu d'actualité, on en a parlé. C'est ni Macron ni Orban. Comment l'affrontement d'une part des pro-européens et d'autre part des nationalistes peut nous conduire à la catastrophe.
Allez, merci à tous les deux. Merci à Jérémy Pelletier. Merci à vous également, Emmanuel Bachellerie, et moi je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés sur France Info.